20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 6 mai 2004. Le dernier épisode de la série Friends est diffusé à la télévision américaine. Clap de fin pour une série phénomène et unique en son genre dont on vous raconte les secrets ce soir. Il est à peine 21h aux États-Unis et plus de 52 millions d'Américains brûlent d'impatience, assis confortablement sur leur canapé avec leur pot de popcorn et leur crème glacée. Ce soir, c'est l'événement et c'est sur NBC. Épisode de Friends, et alors me direz-vous qu'est-ce qu'il y a de si spécial ? Ce qu'il y a de particulier ce soir, c'est qu'il s'agit du dernier, The Last One, l'ultime, vous voyez ? Car après 10 saisons et 235 épisodes, Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler et Joey vont tirer leur révérence. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas Friends, ce sont les 6 personnages principaux de la série, 6 amis. Rachel, c'est la fille de bonne famille, celle qui est née avec une cuillère en argent dans la bouche, mais qui décide de devenir indépendante. D'ailleurs, à la fin des années 90, on a toutes plus ou moins essayé d'avoir la même coupe de cheveux que son interprète Jennifer Aniston, mais tout ça sans grand succès, il faut l'avouer. Joey, c'est le jeune comédien qui ne comprend pas toujours tout. Chandler, c'est le marrant de la bande, celui qui fait tout le temps des blagues. Ross, c'est l'intello un peu rasoir dont on aime bien se moquer. Phoebe, c'est celle qui est un petit peu ailleurs, dans son monde, un monde qu'on peine à comprendre parfois. Et enfin Monica, Monica c'est un petit peu la maman du reste de la bande. Ces 6-là donc sont amis et sont devenus les nôtres au fil des 10 saisons. Ça nous a rapporté des rires, du rêve et de la joie. Ça leur a rapporté des millions de dollars. Allez, installez-vous confortablement sur votre canapé. Nous sommes le 6 mai 2004, c'est le dernier épisode de Friends et nous, on vous en raconte tous les secrets. Bonsoir à tous, bienvenue dans Friends, bienvenue dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast. Ce soir, je vous invite dans un appartement culte. Nous sommes au 492 Grove Street dans le West Village à New York. Oh, vous allez adorer ses murs parmes, sa cuisine ouverte et son salon spacieux aux baies vitrées qui donnent sur une terrasse. Bienvenue dans Friends, la série phénomène dont le dernier épisode a rassemblé 52 millions d'Américains. Friends, tout le monde connaît. Tiens, rien que le générique nous donne l'impression de faire partie de la bande. Mais si, comme moi, en revanche, vous n'êtes pas de ceux qui sont des aficionados, restez avec nous car vous allez découvrir les coulisses d'un succès phénoménal et unique. Alain Carazé, bonsoir.
Bonsoir Flavie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous
C'est
êtes journaliste
plaisir.
Spécialisé dans les séries uniques, vraiment ?
Oui, il y a plein d'autres sitcoms, il y a plein de sitcoms qui ont du succès. Tenez, tiens, il y a peu de temps, on a pu voir sur Amazon Prime un film, un téléfilm qui s'appelle Being the Ricardos, qui raconte l'histoire de Lucille Ball et de son mari, qui ont créé les sitcoms en 1952. Vraiment ouais. C'est une comédienne qui a créé la sitcom. Elle a créé comment ça se faisait devant un public avec des caméras qui filmaient simultanément le montage. Elle a tout créé en 1952.
Oui, alors là, on est un petit peu plus tard quand même.
Voilà, et ça faisait quand même chaque semaine aux États-Unis 60 millions de téléspectateurs quand même, cette chose-là.
Donc ça veut dire que ça a toujours existé,
ça
je dirais,
existé.
En tout cas depuis les années 50.
De Ma Sorcière Bien-Aimée, Happy Days, tout ça, ça a toujours existé. Mais Friends, c'est vrai, a donné un certain coup de ranguin au genre et elle l'a ouvert vers de nouveaux territoires. C'est pour ça qu'on la revoit encore de nos jours.
Est-ce qu'il y a un équivalent français ? Parce que je viens de le dire, je viens de confesser Alain Carazé, ouais. Je ne connais pas Friends.
Partir du studio. J'étais à deux doigts de quitter ce studio. Je
c'est
vous
pas
dis,
vrai, ça vous excite ? Vous m'avez dit avant, en antenne, vous m'avez dit c'est génial parce que l'idée c'est que vous ayez envie d'aller voir Friends après
Bien
cette
sûr.
Émission.
Bien sûr. Alors, il n'y a pas d'équivalent en France. On a longtemps cru que pour faire une sitcom comme Friends...
C'est pas un peu Hélène et les garçons ?
Il suffisait de faire du Hélène et les garçons, à savoir de réunir des jeunes acteurs craquantes et craquants, et de les tourner en vidéo, et d'avoir des rires enregistrés, etc. Mais c'est pas vrai. C'est pas tout. Alors, oui, dans la forme un petit peu, mais c'est pas vrai. Parce que il faut avant tout un scénario, une histoire, des idées, des gags. Et c'est pas tourné de façon quotidienne, c'est tourné avec autant de soin que l'on peut apporter à n'importe quelle autre série, que ça soit Casa de Papel ou n'importe quoi. C'est la même chose, sauf que le format était un peu différent, la mise en scène était un peu différente. C'est vrai que c'était beaucoup plus basé sur les personnages et sur les dialogues, voilà, et moins sur des mouvements de caméra virevoltants. Mais à la même époque, il y avait aussi Urgence, avec des steadicams entre les malades et les choses comme ça. Et ça, c'était très cinématique et cinématographique aussi. Mais Friends, c'était autre chose.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Friends, en début d'émission, j'ai parlé des personnages, mais le pitch, c'est quoi ?
6 amis. Ouais. Qui vivent ensemble parce que, grosso modo, ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Ils vivent à New York, ils ont la vingtaine, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de référent adulte, on va dire. Ils découvrent la vie et la seule chose qui peut leur éviter de sombrer, c'est l'amitié qui les retient les uns les autres. C'est simple, non, comme idée. Tous et toutes essaient de trouver l'âme sœur. Tous et toutes se disent à un moment, je vais rencontrer quelqu'un dont je vais tomber amoureux, je vais rencontrer... Et quelquefois, ils ne se rendent pas compte que c'est une personne avec qui ils sont. Voilà. Là, c'est fait partie des six.
Voilà, donc c'est, amis, c'est le ressort de l'amour, quoi.
Voilà. Mais étant donné qu'ils sont amis, c'est inconcevable. Entre amis, on ne va pas tomber amoureux.
Nous, on sait, en tant que spectateurs, si j'ai bien compris, qui irait bien avec qui, mais néanmoins, voilà, ça fait
surprise
partie.
Aussi. Hein.
Alors, j'imagine bien. De toute façon, on reviendra sur l'écriture. On parle d'une série phénomène. Pourquoi parle-t-on d'une série phénomène ? Est-ce que c'est mieux que Game of Thrones, par exemple ?
Oh là ! C'est différent.
Alors, on est d'accord, c'est différent.
Il n'y a pas de dragon, déjà,
au départ. En termes de chiffres, en termes de... Voilà, pourquoi c'est une série phénomène ?
C'est une série phénomène parce qu'elle est arrivée en prime time sur une chaîne de télé américaine grand public, à une époque où il y avait quelques sitcoms, mais souvent les sitcoms étaient dans un format très très fermé. C'était la plupart du temps, c'était des sitcoms familiales. C'était le noyau familial, le papa, la maman, les enfants. Typiquement, c'était le Cosby Show. Typiquement, c'était les histoires des enfants, et puis il y avait papa qui arrivait en disant « faut pas faire ça » ou « faut faire ça » ou ceci, voilà. C'est ça la sitcom. C'était drôle, c'était amusant, il y avait des gags, il y avait des rebondissements. C'était rarement la vie des gens, c'était rarement quelque chose d'aussi réaliste que ça. C'était quelquefois des sorcières ou des choses comme ça, mais voilà, c'était Alf, petite créature qui embêtait un peu les gens sur qui elle était, etc. Mais voilà, arrive Friends, et Friends, un peu comme Seinfeld à la même époque, c'est complètement hors norme. Il n'y a pas de référent parent, il n'y a pas de référent adulte. Comme on l'a dit, c'est 6 personnes qui vivent ensemble, qui ont la vingtaine et qui se cherchent. Donc a priori, quand on est un diffuseur grand public qui se doit de diffuser auprès de millions et de millions de personnes et de gagner de l'argent parce qu'on est une chaîne privée, on se dit ça, qui va regarder ça ? Personne ne va se sentir concerné. Les jeunes spectateurs vont pas se sentir concernés, les plus adultes non plus parce qu'ils ont passé la vingtaine, etc. Eh bien si. Le truc, c'est que cette sitcom est devenue mythique et a tout changé parce qu'elle s'adressait à un public de vingtenaires, si j'ose m'exprimer ainsi, de gens qui ont 20 ans et qui, quelque part, ne trouvaient rien d'autre à voir et se sont retrouvés dans ces personnages et dans les quêtes de ces personnages. Au début de la série, il y a eu 2-3 épisodes dans lesquels les personnages plongeaient un petit peu dans le côté sociétal. Il y en avait un qui était au Pôle emploi, etc. Ça n'a pas fonctionné. C'est pas ça qu'on attendait. On attendait d'eux le fait que, ok, ils sont dans leur grand appartement à New York et c'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils peuvent se le payer. Mais avant tout, c'était des histoires entre eux. C'était comment vont-ils réagir face à la vie, face à la société, face à eux-mêmes. Et petit à petit, toute la série s'est retrouvée sur eux-mêmes, sur ces personnages qui sont quand même soit fantasques comme Phoebe qui n'arrête pas de délirer, etc. Soit acteurs ratés comme Joey et ainsi de suite. C'est ça vraiment qui a fait le sel. Voilà, c'est des 6 personnages égalitaires les uns les autres, mais qui étaient chacun une facette des spectateurs.
Et alors, en termes de chiffres, ça donne quoi ? Est-ce que c'est un des plus gros succès en termes de série qu'on ait connu ?
C'est un des plus gros succès, oui. D'abord parce que ça a duré très longtemps. On est à une époque maintenant dans laquelle on voit des séries sur les plateformes de streaming et les séries nouvelles sur les plateformes durent 1-2 saisons. Elles totalisent une quinzaine d'épisodes et puis c'est terminé. Et en plus, si vous voulez ouvrir un petit peu le passage financier, quand une plateforme de streaming vous commande une série, vous n'avez aucun droit dérivé dessus. Elle se garde tout pour elle.
Là,
il n'y a pas de droit dérivé. Là, quand vous faites Friends...
Donc c'est 10 ans d'antenne.
Donc c'est quand même...
235
épisodes. Et c'est donc une chaîne, pour essayer de vous simplifier le modèle financier, c'est une chaîne américaine qui a financé la série, donc la NBC, mais c'est une maison de production qui se garde les droits à du 8 à Métarin pour le monde entier, la Warner. Donc tout a été payé par la NBC à l'époque pour 1 ou 2 diffusions en prime time sur ses antennes. Mais après, c'est Warner qui a fait fructifier cet argent, qui a fait fructifier ça en la vendant au monde entier, en la revendant aux États-Unis, en la vendant maintenant sur des plateformes, sur Netflix, puis sur HBO Max, sur ceci, sur... Et là, ça commence à faire très fort. Ça commence à monter beaucoup.
Donc c'est un des plus gros succès de tous les temps en termes de sitcom.
à partir du moment où la série est toujours demandée,
oui.
À partir du moment où elle est toujours désirée, à partir du moment où il y a toujours un diffuseur qui a envie de la racheter, de la diffuser, qu'il soit plateforme ou chaîne de télé, absolument.
On va se retrouver dans un instant, on va parler des débuts de Friends. Voilà, comment c'est né, qui a eu cette idée, comment la série était-elle tournée? Ce sera dans un instant avec vous dans Jour J. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Voilà, vous l'avez compris, Jour J qui se la joue revival ce soir. On remonte dans le temps, au milieu des années 90. Bon, question look, ça ne nous dépayse pas tant que ça, car la mode est un éternel recommencement. Mais quand on voit les premières images de la série Friends, on se prend quand même un petit coup sur la cafetière. Oui. Friends, c'est notre sujet de ce soir et on plonge dans les coulisses de ce sitcom. Comme on disait à l'époque, hein, Alain Carazé, on disait pas sitcom. Une série, on parlait d'un sitcom.
Oh bah, c'est un genre de série, mais c'est une comédie de situation.
Voilà.
Sitcom.
Voilà, vous êtes notre invité, vous êtes notre guide, vous êtes spécialiste des séries, Alain Carazé, merci d'avoir accepté mon invitation. Qui est à l'origine de Friends? Friends qui ne devait pas s'appeler Friends, hein, ça devait s'appeler Insomnia Café.
Ouais. Absolument, puis ensuite ça s'est appelé pour le pilote Friends Like Us,
voilà.
Des amis comme nous,
ouais.
Et puis finalement ça s'appelait Friends. C'est Martha Kaufman et David Crane qui sont deux scénaristes qui ont travaillé ensemble, entre autres sur une série, sur une sitcom que l'on a vue en France qui s'appelle Dream On,
mm-hmm.
Une sitcom un peu décapante, complètement différente, parce que là par contre c'était Martin Topper qui parlait de ses exploits sexuels, donc c'était complètement différent.
C'est très soft, hein, question sexualité dans Friends. Hein.
C'est très soft, quand même.
Petit bisou.
C'est évoqué, c'est voilà, mais c'est très soft. Ouais. Dans Dream On, ça l'était beaucoup moins. Ils avaient déjà fait des choses, et c'est vrai que Friends était basé un peu sur leur vie. Ils ont vécu en coloc, ils ont rencontré d'autres personnes, etc. Donc, ils ont tenté le coup de parmi les projets, parce qu'ils ont fait d'autres choses, etc., qui n'ont pas marché. Vous savez, aux États-Unis, on fait un pilote, le pilote est refusé, on ne nous accepte pas les scénarios, ça traîne sur des tiroirs, sur des bureaux, ça ne se fait pas, etc. Et là, finalement, ben, le pilote de Friends, enfin, l'idée centrale de Friends a tenté la chaîne NBC. Il dit, pourquoi pas, écrivez-nous le premier, etc. Puis finalement, il y a eu le pilote. C'est donc eux qui ont été à l'origine de la série. À partir de là, ils se sont mis avec un réalisateur, qui est un réalisateur fameux aux États-Unis, qui s'appelle James Burrows, qui est un type qui est un peu le spécialiste des sitcoms. Ça ne veut pas dire que c'est un réalisateur qui est formidable en termes de mise en scène, de mouvement de caméra, etc. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, le sitcom, c'est, voilà, c'est une scène, un peu comme une scène de théâtre. C'est trois caméras devant et on filme avec des plans différents. Donc, c'est pas là qu'on peut faire des miracles en termes de mise en scène. Par contre, c'est un type formidable pour créer un lien entre des acteurs qui ne se connaissent pas. Et tout le succès d'une sitcom repose là-dessus.
Alors, j'allais vous demander, parce que est-ce que la bande que l'on voit dans Friends était une vraie bande aussi dans la vraie vie?
Oui, absolument.
Ah,
ils sont restés toujours amis, mais au départ, évidemment, on ne se connaissait pas. C'est des acteurs. Certains avaient été dans des séries précédemment produites par Martha Kaufman, David Crane. D'autres avaient participé, avaient été dans quelques épisodes de Dream On. D'autres avaient fait des pilotes, etc. Donc, simplement, quand vous faites un casting, vous essayez, vous faites des réunions, vous essayez de voir qui convient le mieux, à quel rôle, ou comment, pourquoi, et vous faites des auditions avec les acteurs. Ces six-là ont trouvé qu'ils étaient parfaitement dans le rôle, qu'ils étaient en plus attractifs, visuellement parlant, ils sont pas dégueulasses, enfin voilà. Vous voyez, il y a tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte. Ils se connaissent pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour que l'alchimie prenne, pour qu'on donne l'impression à l'écran dès le premier épisode? Dès le pilote, c'est pas du style, on va faire trois saisons, on verra plus tard. Dès le premier épisode, qui sont amis depuis très longtemps, qui se connaissent depuis l'enfance, qui vivent ensemble depuis longtemps dans le même appart, qu'il y en a même un qui est amoureux sans le dire d'une autre, et ainsi de suite. Comment faire? Et c'est là-dessus que repose James Burrows. Les créateurs de la série ont bâti les personnages en les rencontrant, en les voyant de plus en plus, en s'imprégnant de leur personnalité. Mais quelque part, c'est James Burrows qui s'est dit, bon, parce qu'il a l'habitude, je vous réunis, on va dîner ensemble. Pour ça, on va pas simplement dîner à Los Angeles, je vous emmène en jet privé, on va aller à Las Vegas. Et on va se faire un grand dîner tous ensemble et on va créer le lien avant qu'on commence le tournage.
Est-ce que c'est vrai qu'il leur a dit au moment de monter dans l'avion, c'est la dernière fois que vous allez monter dans un jet privé de façon anonyme?
Absolument, c'est ce qu'il a dit.
C'est dingue. Voilà, il était sûr de son succès, quoi.
Il était sûr du succès parce qu'évidemment, il avait lu le script, évidemment, il connaissait les producteurs, mais aussi c'est parce que c'est un très grand réalisateur qui a déjà, enfin, aux États-Unis, il a déjà été à l'origine de pas mal de sitcoms qu'on connaît pas en France, comme Cheers ou des choses comme ça, et qui ont été des succès phénoménales aux États-Unis. Quelquefois, il est dans des choses qu'il sait très bien d'avance un peu que ça va pas trop marcher, mais quelquefois, quand il sent le truc, il se dit, là, ça va être bien.
Donc, il les emmène à Las Vegas pour faire la bamboche.
Ouais, c'est exactement ça.
En jet privé, et ils reviennent de Las Vegas et ils sont tous potes.
C'est à peu près
ça. Donc, c'est un peu touché par la grâce, hein, cette histoire.
Non seulement ils sont un peu tous potes, mais ils se rendent compte au bout de quelques épisodes que s'il y en a un qui manque, il n'y a plus de série. Ça, c'est crucial. Vous savez, la série, c'est comme partout. À partir du moment où il y en a un qui se dit « Moi, je suis tellement supérieur aux autres, je vais négocier plus d'argent que les autres », même s'il a peut-être raison, ou elle a peut-être raison, quelque part, ça crée des dissensions. Dès le début, Courteney Cox a dit à tous ses collègues...
Donc l'une des comédiennes de Friends.
Elle a dit à ses collègues, la plus connue d'ailleurs à l'extérieur des autres, elle a dit « Écoutez, c'est simple, il faut vraiment qu'on se tienne les coudes tous ensemble. Si on renégocie, si on discute de nos salaires via nos agents, il faut vraiment qu'on se tienne au courant les uns les autres et que ça soit tous sur un pied d'égalité. Parce qu'on est parfaitement conscient que s'il y en a un qui se barre de la série, qui a refusé, c'est foutu. Et c'est vrai que dans plein de séries, c'est facile, on peut changer les personnages, on peut renouveler les choses. Là, dans Friends, ça repose sur eux. Ça repose pas sur une mise en scène, ça repose pas, comme on parlait tout à l'heure de Game of Thrones, sur une famille, sur une mise en scène. Ça repose vraiment sur 6 personnages cruciaux. Donc, s'il y en a un qui se barre, c'est foutu.
Donc, le succès, est-ce qu'il a été là tout de suite? Est-ce que ça a pris immédiatement? Ou est-ce qu'il a fallu quand même, pour les téléspectateurs, faire connaissance avec cette bande de 6 potes?
Ça a pris très très vite. En 2-3 semaines, ça a été un phénomène faramineux.
Un phénomène.
C'était en couverture des magazines. Tous les magazines un peu spécialisés sur la télévision aux États-Unis se sont dit « ça, c'est un peu la révélation ». Parce que c'était novateur, parce qu'il n'y avait pas le référent de parents, parce que les thèmes étaient novateurs, parce que les sujets étaient quand même originaux. Voilà, enfin, je veux dire, il y avait quand même plein d'éléments, quoi.
C'était une série qui était déconnectée, en fait, de la société qui la regardait, ou au contraire, est-ce que c'était le miroir?
Dès le premier épisode, on se rend compte que Ross est très malheureux parce que, quelque part, il a dû divorcer de sa femme parce que sa femme s'est mise avec une autre femme. Et tout ça sous le ton de l'humour.
Donc ça veut dire que les sujets de société étaient abordés. Donc c'était une série profondément actuelle.
Mais de façon un peu...
Sitcom.
De façon drôle, de façon amusante. Et l'argent était abordé, et tous ces éléments étaient abordés, mais avec une pointe d'humour, une pointe de cynisme, une pointe de second degré.
Mais j'ai pourtant lu aussi, en préparant cette émission, que c'est une série qui, un temps, a été accusée de transphobie, de grossophobie,
Ce qui est faux.
Enfin, d'accord, dire, d'homophobie.
Chacun peut voir. Alors, c'est vrai qu'avec 20 ans de
pas
décalage...
Pas assez de pluralité ethnique ou culturelle.
Ça, par contre, c'est vrai. Et Martha Kaufmann, David Crane l'ont toujours regretté. Et ils se prononcent encore de nos jours en disant « On l'a regretté, ça c'est un truc qu'on aurait dû faire et c'est vrai qu'on ne l'a pas fait. » Et là,
parce qu'ils sont tous blancs, tous beaux, tous un peu friqués. Enfin,
mais c'est complètement ça. Enfin, ils ne sont pas très très friqués, c'est pour ça qu'ils vivent ensemble.
Ils vivent quand même dans un appartement de dingue. Quoi. Enfin,
mais ça, ils vivent à New York dans un appartement de dingue, je vous le conseille.
Il y a même une étude qui a été faite, justement, combien coûterait l'appartement de Friends, et c'est environ 3 millions d'euros.
Voilà. Ouais, donc ils gagnent quand même pas trop mal leur vie.
Ils ont tous des petits jobs en plus.
Et ils ont tous des petits job, donc il y a un truc qui va pas.
Mais ça fonctionne quand même.
On va dire liberté créative des scénaristes, on va dire ça. Comme ça, mais...
Ça a fonctionné.
Mais oui, là où je ne suis pas d'avis de tous ceux qui disent qu'il y a de la transphobie et tout, c'est que ces éléments-là, on les perçoit 30 ans plus tard, avec un regard contemporain. Et en plus, c'est souvent basé sur une scène, au milieu de 225 épisodes, un plan, une réplique, un gag ou quelque chose comme ça. C'est jamais remis dans le contexte. On parle de grossophobie, par exemple. Ça, c'est parce que dans un des épisodes, les 6 amis se renvoient des films d'enfance dans lesquels Monica, à l'époque, n'était pas aussi mince qu'elle l'est de nos jours. Elle était plus grosse, etc., etc. Et à partir de là, en effet, ils rigolent, tout comme nous et vous et moi, on peut rigoler de l'apparence qu'on avait quand on avait 20 ou 30 ans de moins. Voilà. Mais ça va jamais au-delà. C'est quand même une série qui parle d'homosexualité, qui parle de plein de choses, qui parle de plein de sujets. Et attendez, c'était à 20h sur NBC quand même. C'était pas rien.
Oui, donc en ça aussi, c'était effectivement particulièrement moderne.
Donc je trouve que c'était, au contraire, moi quand je le voyais à l'époque et quand on le passait sur Jimmy, c'était extrêmement moderne.
On va se retrouver dans un instant. On fait une courte pause. Il faut l'arrêter, hein, Alain Carazé. Mais enfin, c'est un passionné de Friends. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans un instant, dans Jour J, on va revenir sur les raisons du succès. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Vous êtes les amis, les poteaux de Jour J. Toujours bon de vous retrouver sur RTL ou en podcast. Mais ce soir, on se fait de nouveaux Friends. Monica, Joey, Phoebe, Chandler, Ross et Rachel. Et Alain Carazé, vous êtes notre invité passionné.
Ah, je suis le nouveau Friends.
Friends. Dites-moi.
C'est de la promotion, je suis ravie.
Je faisais, et alors j'espère vraiment que les aficionados et das de Friends n'en prendront pas ombrage, mais je faisais en début d'émission référence à des sitcoms françaises comme Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles, enfin bon, toutes les productions AB. Et il y avait moi quelque chose, pardon, mais qui m'horripilait devant ces fictions.
Les rires ?
Exactement. Alors, je trouvais ces rires qui tombaient tout le temps. D'abord, c'était moi, je me marrais pas toujours.
Non,
rires enregistrés. C'était toujours le même rire.
Voilà. En plus, il faut dire que c'était pas drôle, déjà, au départ. Alors, les répliques n'étaient pas drôles. Et voilà. Donc, il n'y avait pas de quoi rire.
Donc, je trouvais pas ça super marrant et j'étais pas super fan. Donc, parce que justement, ces rires étaient une injonction à la rigolade. Est-ce que le tournage de Friends était différent de ces tournages d'AB Productions à la Plaine Saint-Denis où on balançait finalement des rires préenregistrés au montage?
Ouais, parce qu'ils étaient en public.
Ah, mais ça, c'est dingue. Un peu comme la série H.
H, justement, c'est complètement inspiré, parce qu'ils ont été voir comment ça se faisait, c'est complètement inspiré du format américain et des sitcoms du format américain qui, depuis 1952, sont tournés devant un public live. Je sais, j'en ai fait partie.
Vous y êtes allé, vous ?
Ah ouais, bien sûr.
Ah, génial.
Bah oui, attendez,
racontez.
Trop sympa. D'abord, bon, parce que je faisais partie de la chaîne qui diffusait la série, j'avais une petite passe et j'avais...
Ah ouais,
t'es pas obligé d'attendre.
Pas simplement dans le public, quoi.
Si. Ah j'étais dans le public, mais j'étais pas obligé d'attendre les 6 mois nécessaires, voire un an nécessaire au moment où. Ah oui, plus une série a du succès, plus si vous dites, moi j'ai envie d'assister au tournage, vous dites, ok, vous êtes sur une liste d'attente. Et la liste d'attente, elle peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans.
Mais il y avait combien de personnes dans le public ?
Il y a à peu près 200-250 personnes dans le public.
Alors attends, donc il y a 200-250 personnes face à un décor.
Exactement.
Des caméras.
Un peu comme une scène de théâtre, sauf que c'est dans l'autre sens, à savoir que c'est des tréteaux. Vous êtes assis sur des tréteaux, donc en hauteur. Le décor est plus en bas, les caméras sont juste en dessous. Vous voyez à peine les caméras. Et vous avez tout le décor devant vous. On vous fait venir vers les 14-15 heures. Le tournage démarre à 17 heures. C'est-à-dire que les comédiens, les cadreurs et les réalisateurs ont répété quand même toute la semaine. Depuis le mardi, ils ont répété le même épisode matin et après-midi. Tout le temps. Chaque scène, chaque plan, etc. Là, vous arrivez, vous vous asseyez.
Showtime.
Et à partir de là, vous avez d'abord un chauffeur de salle qui va faire des blagues avec vous, etc. Dans un écran, on va vous montrer des extraits quand même pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Puis, les acteurs vont arriver devant la scène et vont vous saluer sous vos applaudissements. C'est vraiment comme ça. Puis, le rideau s'ouvre, révélant le décor qui est en fait d'un côté le Central Perk, de l'autre côté l'appartement.
Alors, Central Perk, c'est le QG dont je parlais en début d'émission.
Le café dans lequel il se retrouve. Ça, c'est sur un côté du décor. Sur l'autre côté du décor, c'est l'appartement de Monica dans lequel ils vivent tous. Un peu plus loin, c'est un autre décor. Et puis, quelquefois, il y a des décors qui sont derrière, qui sont construits spécialement pour l'épisode. Et là, vous ne pouvez pas les voir si vous êtes dans la salle, mais vous les voyez sur les écrans de contrôle qui sont au-dessus du truc. Et là, les acteurs arrivent. Et là, on tourne la première scène, dans l'ordre. Donc, on tourne la première scène, une première fois, ça marche, une deuxième fois, ok. Ensuite, terminé, les caméras changent de place, on tourne la deuxième scène, une première fois, une deuxième fois, la troisième. Ah, il y a un gag qui est peut-être pas terrible. Alors là, on se retourne vers vous, le public. Est-ce que ça vous convient ? Est-ce que vous avez rigolé ? On va changer. Les scénaristes sont là, et hop, on change le gag, on change la réplique. Et là, on voit les réactions du public qui va rigoler différemment. Et ainsi de suite. Et tout ça jusqu'à la fin du tournage de l'épisode. Et généralement, il est minuit, 1h du matin.
D'accord.
Et on vous amène une pizza entre-temps pour vous nourrir, parce qu'en plus, on vous nourrit.
Et c'est chouette.
Et c'est gratuit.
Ouais. Non, mais est-ce que c'est chouette ?
C'est formidable.
C'est formidable, ouais.
C'est absolument génialissime. Ils sont là face à vous. Quelquefois, entre les... Moi, je me souviens de l'épisode dans lequel j'ai assisté, entre les passages, dans lequel on attendait que les caméras se remettent en place et que tout se remette en place, il y a des spectateurs qui disaient « Joey, fais-nous ta danse !» Parce que dans un épisode, Joey dansait de façon un peu rigolote. Je vais pas vous le faire là, mais puis il n'y a pas de caméra, donc tout va bien. Mais
même pour nous.
Non. Il dansait de façon rigolote. Donc, on voyait quand même Matt Leblanc, on le voyait un peu.
Le comédien.
Ah, mon Dieu, quelle horreur. Finalement, il s'est levé, il l'a fait, cette explosion dans le public, et ainsi de suite. Enfin, voilà. Donc, c'est rigolo, c'est un vrai moment de plaisir.
Alors, peut-être avez-vous entendu ça, parce que si vous connaissez la série, vous allez forcément reconnaître effectivement Matt Leblanc, alias Joey.
Hey. How you doing?
Alors, hey, how are you doing? Salut, ça va toi?
On lui demande de faire ça dans pratiquement maintenant tous les talk shows dans lesquels il apparaît.
Ah bon? Donc ça c'est une réplique culte.
Il y en a d'autres qui me reviennent pas à l'esprit. Il y a le fameux Smelly Cat, la chanson de Phoebe aussi. Qui
alors,
est quand même
justement,
énorme.
On va l'écouter tout de suite.
Ah oui, c'est un grand moment ça.
Smelly Cat, what are they feeding you? Everybody, Smelly Cat, Smelly Cat.
Moi, je n'invite pas à un karaoké, hein.
Mais c'est monstrueux, mais c'est ça le gag. C'est qu'elle est persuadée que c'est une chanteuse de folk absolument formidable, et sa chanson est juste monstrueuse. C'est quand même... Sa chanson, c'est « le chat qui pue », quoi. C'est-à-dire, c'est hideux comme chanson. C'est ni fait ni à faire. Et c'est ça, le gag. C'est que tout le monde, elle est persuadée d'être « allez, avec moi !» et tout. Et tout le monde la regarde avec des yeux pas possibles. Et c'est quand même la chanson clé. Elle le chante dans le métro, etc. Enfin, voilà. C'est quand même assez insensé. Donc, des moments comme ça, dans la série, oui, il y en a plein.
Alors, des moments, et puis il y a aussi, je dirais, des looks des années 90, oh là, et terrible, notamment terrible, la coiffure de Rachel, donc Jennifer Aniston, qui est culte, elle aussi.
Absolument, à un moment d'ailleurs, elle a changé de coiffure, hein. Et franchement, les responsables de la chaîne de télé NBC avaient la trouille, que ça foute la série en l'air, que les gens regardent moins, etc. Parce que c'est devenu un phénomène quand même, hein. Et les acteurs étaient, et actrices étaient en couverture de tous les magazines, un peu trop d'ailleurs au bout d'un moment. Ça a commencé à chrouchrougner un peu sur les bordures. Les gens ont commencé à en avoir
quoi,
un peu...
Ça veut dire quoi, chrouchrougner sur les bordures?
Ça veut dire que le public commençait à en avoir marre. Et ça veut dire qu'il y avait un espèce de phénomène de retour du style « trop de Friends gâche Friends ». Et que les gens commençaient à être un peu saturés d'entendre Friends du matin au soir, dès qu'ils se rendaient n'importe sur un marchand de journaux et tout, que c'était en couverture de partout. Ça commençait quand même un peu à les saouler.
Est-ce que c'est ça qui a fait que la série s'est arrêtée?
Non, non, en 2004, pas du tout, parce qu'en fait, ça a duré... C'était au début, c'était après les deux premières années de frénésie et de délire. Ça a duré, quoi, quelques mois. Puis, il y a eu tout un groupe de nouveaux scénaristes qui sont arrivés. Ils étaient 14, quand même, à écrire les scénarios, à écrire les répliques. Hein. Donc, ils ont donné un coup de sang neuf, quand même, à la série. Et puis... La série a changé parce que d'un seul coup, il y a eu une romance entre Rachel et Ross. Mmh. Et ça passionnait aussi l'Amérique entière. Et nous aussi, par les circonstances. Puis ça a évolué. Mais c'est vrai que, et c'est vrai pour toute série, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments dans lesquels on se lasse un peu, dans lesquels ils se renouvellent pas trop. Et des moments dans lesquels on en a marre un peu de voir leur tête. Il y a des moments dans lesquels on aime les retrouver.
Oui ou non, est-ce que c'est une histoire de sous qui a fait que la série s'est arrêtée?
Comment vous dire?
Eh ben, vous allez me le dire dans un instant. Voilà, parce qu'on va parler des dollars dans un instant. Parce que Friends, c'est quand même aussi une grosse histoire d'argent. Il y a des dollars partout.
Plein, 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 plein.
À tout de suite.
Hey, how you doing?
Flavie Flamand sur RTL.
Si la série Friends est phénoménale, c'est aussi par l'argent qu'elle a rapporté et qu'elle rapporte encore. Et Alain Carazé quand même, ouais. C'est bon de tourner Friends, dites donc, hein, parce que ça nous met à l'abri et puis toutes les générations à venir aussi,
c'est
non
vrai. Oui, oui, c'est vrai.
On va parler Dollars là, parce que c'est...
Et il y a quoi? Les non, producteurs mais... et créateurs de Friends, eux, c'est normal, ils ont un pourcentage. Et donc, bah, vous créez un truc, ça marche, vous allez toucher l'usufruit de votre travail. Ça, c'est tout à fait logique, en plus du salaire que vous avez. Quand vous êtes acteur, généralement, vous n'avez pas de pourcentage, sauf si vraiment ça devient un succès et si année après année, vous dites, bah, c'est ça où je me barre. Et comme on a dit tout à l'heure que tous les acteurs de Friends étaient solidaires les uns avec les autres, c'est si nous n'avons pas quelque chose, on se barre.
Ouais, donc c'est la série qui s'écroule, quoi.
Et donc, il n'y a plus de série du tout. Donc, quelque part, c'est vrai qu'ils ont commencé avec un salaire de quoi, 22-25 000 $ quelque part par épisode, ce qui est un salaire à peu près normal pour
c'est pas mal,
un comédien.
Mais ouais,
c'est bien.
C'est classique.
C'est classique.
Ah d'accord, ok.
Pour un acteur de sitcom qui n'est pas une superstar connue, c'est classique. À partir quand même d'un certain nombre d'années, ça s'est passé à 70 000 $ par épisode parce qu'ils ont renégocié avec leurs agents. Pas eux, leurs agents ont renégocié.
C'était une série quotidienne?
Et non, c'est une série hebdomadaire.
D'accord.
Donc c'est à peu près 24 épisodes par saison.
Ok, d'accord.
Ensuite, à partir d'un certain moment, on est arrivé quand même à 100 000 $ l'épisode.
Ouais.
Pas mal. Et arrivé à la saison 9, donc l'avant-dernière, ils étaient déjà à 1 000 000 $ par épisode.
Non mais 1 000 000 $ par épisode.
Oui, mais quelque part, la chaîne et la Warner se faisaient quand même 1 milliard $ de revenus par an.
Incroyable.
C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que Friends, aux États-Unis sur NBC, à elle toute seule, donc cette sitcom d'une demi-heure le jeudi soir en début de programme, suivie de 4 autres séries, représentait 40% des bénéfices de la chaîne. 40%!
Mais l'arrêt de Friends, ça a dû être une catastrophe.
Ça a été une catastrophe. Pour la chaîne, ça a été une catastrophe absolue.
Alors...
Et c'est d'ailleurs, elle aurait dû s'arrêter à la saison 9. Et tous les acteurs et tous les producteurs se disent, voilà, on en a marre, c'est fini, ça suffit. Ils touchaient déjà 1 000 000 $ par épisode, les producteurs aussi. Et voilà, saison 9, terminée, merci, au revoir. Et c'est la chaîne qui est venue vers eux en disant qu'il les a suppliés de continuer une saison de plus. Ce à quoi la Warner a dit, bon, d'accord, mais là, il faudrait vraiment que vous alliez dévaliser une banque, parce que mes pauvres amis, vous n'aurez jamais assez d'argent. Et ils ont dit d'accord. Ok. Et ils sont revenus avec un deal qui était 10 millions de dollars par épisode. C'est la sitcom qui coûtait la plus chère au monde. 10 millions de dollars pour 30 minutes quand même, par épisode. C'est insensé, on n'a jamais vu ça. Donc, évidemment, il y a eu des négociations. Tout s'est fait au mois de décembre. Les acteurs se sont dit, bon, on va en profiter. On va leur demander un peu accès au jet privé de la NBC. On va demander des trucs comme plus. On va demander des loges encore trois fois plus grandes avec des kiwis pelés, etc. Des choses comme ça.
Un truc
bon.
Super intéressant.
Voilà.
Indispensable, le kiwi pelé. Hein.
Ben, ils avaient déjà, ils avaient déjà $1 million par épisode. Donc, si vous voulez, il fallait demander quelque chose de plus.
Je vais y penser, tiens.
NBC, ouais. N'est-ce pas, hein. Finalement, la NBC a dit, écoutez, non, là, ça commence à aller. C'est 10 millions de dollars par épisode pour la Warner. Elle le dispatche comme elle veut. Vous avez déjà $1 million par épisode. Les producteurs, les créateurs ont aussi de l'argent. Tout va bien. La Warner s'est dit, bon, nous, c'est parfait parce qu'elle est déjà rentable. Mm. Avec 9 saisons, elle était rentable sur Évidemment. Le marché américain, en rediffusion, etc. Et on l'a bien vu puisque Warner, rien qu'avec la vente à Netflix, se fait quelque chose comme, alors là, j'ai pas le chiffre, mais je crois que c'est 425 millions de dollars.
Énorme. Énorme.
Donc, pour la Warner, tout va bien. Mais là, en plus, à l'époque, déjà, de toute façon, elle était déjà rentable avec 10 millions de dollars.
Mais alors, pourquoi elle s'est arrêtée? Parce qu'on m'a dit qu'à un moment donné, enfin, moi, j'ai cru comprendre que c'était une histoire d'argent. C'est que les comédiens demandaient trop.
Ah non,
et
non,
que...
non, non.
Et pourquoi elle s'est arrêtée
justement,
alors?
Parce qu'eux, ils voulaient déjà arrêter la saison précédente.
D'accord.
Et ils se sont dit, ça suffit, on vous fait une saison de plus, on vous fait 18 épisodes, on veut être payé comme si on en faisait 19. Et voilà, parce que vous avez absolument besoin de cette série pour votre chaîne.
Bien sûr.
Parce que sinon, votre chaîne s'effondre. Mais voilà, ça sera la dernière. Et ça a été la dernière.
Donc les comédiens ont décidé d'arrêter, en fait.
Tout le monde a décidé d'arrêter. Voilà. Les comédiens, les producteurs. Et d'ailleurs, encore à ce jour, que ce soit les comédiens ou que ce soit les créateurs de la série, ils refusent de tourner le moindre nouvel épisode.
Alors, et ils ont fait une soirée, on y reviendra dans un instant. Il faut préciser quand même que quand on a joué donc, pendant 10 ans dans la série Friends, hein, comme nos six compères dont on parle depuis le début de l'émission, on touche encore aujourd'hui 20 millions d'euros de royalties par an.
20 millions de dollars.
Oui, pardon, 20 millions de dollars.
Absolument. Bon,
d'accord. Ok. De royalties par an. C'est ouais. Chouette, quoi.
C'est bien, mais c'est surtout lié au fait que la série est constamment rediffusée, que ça soit sur des chaînes de télé dans le monde entier, sur toutes les chaînes, parce qu'elle n'a pas vieilli.
C'est super, quoi. C'est un rêve. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais c'est unique. Enfin, ouais. Je veux dire, il n'y a pas des centaines de séries. Il y a plein de séries des années 60,
Pour
des années 80.
Pour ça, je veux bien peler mon kiwi, moi. Pas de problème.
Ça va vous marquer, ça.
Ah, ça m'a marqué.
Ça, c'est relativement unique. Ce que je veux dire par là, c'est que des séries qui passent les années, qui passent les décennies, qui restent quand même au top, qui sont encore vendues, encore,
fou.
Et qui deviennent des valeurs sûres pour des plateformes comme Netflix ou comme HBO Max aux États-Unis,
ouais.
Mais parce que c'est des valeurs sûres. Je veux dire, si vous avez Friends dans votre catalogue, vous êtes assuré d'avoir un public, ouais. qui va rester. Surtout quand on doit s'abonner à une plateforme, c'est rarissime.
Et il faut préciser que la série s'est arrêtée il y a 16 ans, ouais. Hein, donc c'est quand même pas rien. Il y a eu des guests aussi, je voudrais qu'on vienne là-dessus, qui venaient faire un tour dans la série, mais pas à n'importe quel moment. Hein. C'était toujours à des périodes où la publicité était très chère.
Il y a une contrainte à la télévision américaine à l'époque, un peu moins maintenant, mais à l'époque, c'est il faut absolument convaincre les annonceurs publicitaires dans votre série,
ouais.
Parce que c'est eux qui amènent le brousouf, quoi. C'est eux qui amènent les moyens pour faire la série. Sinon, la chaîne est diffusée. Une série, s'il n'y a pas d'annonceur publicitaire, la série s'arrête au bout d'un moment. Et il y a deux périodes dans l'année aux États-Unis, qu'on appelle aux États-Unis les sweeps, par lesquelles là, l'audience de la série est vraiment très, 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 très calibrée à la seconde près pour convaincre les annonceurs que, vous voyez, il faut mettre la publicité dans cette série-là et pas dans une autre.
Et raison de plus pour rappeler ce que l'on appelle donc des guests, qui
Absolument.
Sont des stars et qui viennent faire une apparition dans la série. Et
fait.
Notamment. Brad, je l'appelle Brad parce qu'on se connaît, lui et moi.
Oh,
Brad Pitt, à l'époque, c'était avant de me connaître, mari de Jennifer Aniston. Un événement, son arrivée, du pain béni pour les scénaristes. Écoutez-le apprendre dans l'épisode que Rachel, donc son épouse dans la vie de Jennifer Aniston, a de grands projets avec Ross, joué par David Schwimmer.
Oui, c'est vrai. Après tout, on va avoir un bébé ensemble.
Une seconde. Tu lui as fait un enfant?
Oui.
Vous allez vous marier?
Non.
Alors, tu lui fais un mot, mais tu l'épouses pas. Très fort.
Moi, je dis oui pour tout à Brad Pitt, hein, évidemment. Non, mais là, c'était du pain béni. C'était un événement. Brad Pitt, Jennifer Aniston dans
c'est
un épisode.
C'était un événement. C'était fun.
Et il était payé,
Arquette
Brad Pitt,
aussi,
dans ce cas-là.
Bien sûr.
Ah, voilà, c'est ça. Donc,
mais
il n'était
pas payé un salaire faramineux de méga guest star.
Parce qu'il y a quand même eu Julia Roberts, George Clooney, ouais. Richard Branson, Sean Penn, Jean-Claude Van Damme, Charlie ouais. Sheen et même le couturier Ralph Lauren.
Jean-Claude Van Damme, quand même.
Ouais, mais, ah, ça, c'est ça,
Jean-Claude Van Damme,
ça
quand même. Jean-Claude
ça
Van Damme.
Ouais.
Enfin, bon, voilà, quoi.
Donc, c'est quand même parce qu'on voit pas ça.
C'est quand même deux univers différents. Quoi.
Non, mais parce qu'on n'a pas vu, par exemple, je sais pas, on n'a pas vu Marion Cotillard aller jouer dans Le Miel et les Abeilles. Vous voyez ce que je veux dire? On l'imagine
ben,
pas.
Non, parce que c'était moins bien écrit, on va dire. C'était oui. quand même moins prestigieux. Friends, une série de prime time aux États-Unis, c'est une série qui marchait, qui cartonnait. Donc, quelque part, de faire un guest dans Friends, voilà, même Robin Williams a fait un guest parce qu'il avait un film qui sortait, qu'on lui demandait de venir, et il a fait une petite séquence dans Friends, etc. En plus, c'était fun. Les acteurs invités étaient bien reçus, et ainsi de suite, que ça soit pour un épisode entier, que ça soit pour quelques épisodes. Enfin, voilà, ça marchait bien. Le truc avec Friends, c'est que ça, en effet, c'était une stratégie marketing pour faire un petit événement qui faisait que l'audience allait artificiellement remonter. Elle était déjà très haute, mais artificiellement remonter pour un ou deux diffusions. Mais, quelque part, de toute façon, la série reposait surtout sur les six personnages et pas sur les guests. Tom Selleck a été un personnage récurrent dans une saison.
Oui, il est resté.
Mais on continue quand même à se souvenir de Tom Selleck, plus pour Magnum et pour les autres séries qu'il a jouées, plutôt Gilles, que pour son guest dans Friends, quoi. Voilà. Mais c'est la preuve que ces six inconnus. Il y a David Schwimmer, qui connaissait David Schwimmer, quoi.
En tout cas, s'il nous avait appelé pour être guest, eh ben, je suis persuadée que ça aurait fait de l'audience.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui se poursuit avec notre guest Alain Carazé de passage dans Jour J.
Il est fan de série,
et l'audience qui frétille. Merci d'être avec nous, Alain Carazé. Vous êtes journaliste spécialisé dans les séries. Avec vous, donc, depuis une heure, nous parlons de Friends. Friends, donc, sitcom qui s'est arrêté donc en 2004 parce que les comédiens, tout le monde était d'accord pour s'arrêter. Peut-être pas, évidemment, les téléspectateurs, hein, mais c'est ce qui a fait aussi série.
Voilà.
Un véritable phénomène et une série culte. C'est une série aussi qui est revenue en fait dans l'actualité il y a quelques années pour une sorte de soirée revival pour les 25 ans, c'est ça ?
Oh ben c'était en fait, on va être très clair, c'était une soirée revival dans le but de lancer aux États-Unis une nouvelle plateforme sur abonnement HBO Max.
Ah oui d'accord, donc c'était un truc marketing pur quoi.
Et voilà.
À propos de marketing, moi j'aurais accepté si on m'avait proposé 2,5 millions de dollars pour aller faire cette soirée. C'est ce qu'ont été payés les comédiens.
Tout à fait.
2,5 millions de dollars pour une soirée.
Ouais.
D'accord.
Et alors, quelque part, il faut se remettre dans le contexte.
On est d'accord.
Quelque part,
Ah, mais ils ont raison.
Ben voilà, non seulement ils ont raison, en plus, quelque part, ils attendaient rien de personne. Quelque part, il n'y a pas de suite donnée à ça. Quelque part, c'était très clair que ce n'était pas un nouvel épisode de la série, ce qu'ils se refusaient à faire, ce que les scénaristes se sont toujours refusés à faire, mais c'était un talk show. Dans lequel
donc, tous autour d'une table et ils reviennent sur leur aventure de Friends.
Exactement. Bon, c'était sympathique. Ça n'a pas réellement apporté quoi que ce soit de neuf.
Il y a eu
deux petites révélations du style, oui, on était un peu amoureux de l'un de l'autre à l'époque. Et puis voilà, mais c'était un bon moyen de relancer un peu les choses. Et puis de toute façon, tout le monde rêvait de voir les Friends de retour ensemble. Quoi.
Alors, à chaque fois que Jennifer Aniston, Courteney Cox, cette autre comédienne, David Schwimmer ou d'autres, Matt LeBlanc, se retrouvent par exemple sur les réseaux sociaux, c'est une explosion de followers et de likes. C'est un événement à chaque fois qu'ils se retrouvent, parce qu'ils sont potes.
Exactement. Mais vous l'avez très bien dit, c'est ça la base du truc. C'est que, ouais, avant toute chose, tout comme leurs personnages, ils se soutenaient les uns les autres. Les personnages dans la série sont toujours potes, et les acteurs et actrices de la série, dans la vraie vie, le sont aussi. Quand Matthew Perry, à un moment, dans la saison 3...
Donc, qui jouait Chandler,
a commencé à avoir des addictions, et que ça commençait à se voir, parce qu'il maigrissait, parce que... Enfin, ça se voyait, quoi. Ça se voyait qu'il avait des problèmes, véritablement, d'addiction et tout. Et il s'est fait désintoxiquer et tout, mais tous ses copains, acteurs et actrices, ont fait bloc, et l'ont soutenu dans sa démarche. Il aurait pu être viré de la série, on aurait pu dire, bon, ben voilà... T'es négatif pour la série, il faut plus que tu y sois. Etc. Pas du tout. Tout le monde a fait bloc, tout le monde l'a gardé. Donc, ils sont restés amis les uns les autres. Quelquefois, quand un des acteurs est dans une sitcom, il fait venir d'autres acteurs et actrices de Friends et ils se retrouvent le temps d'un personnage dans d'autres rôles. C'est un peu comme un clin d'œil.
Et donc, ça, c'est sincère.
Ah,
c'est ça que vous nous dites. Voilà.
Ah, totalement.
Oui, donc derrière ce marketing et ces millions de dollars,
il y a aussi... Mais justement, c'est parce gagnaient tous la même somme que c'est sincère.
Ouais, ouais, c'est ça. Il y a aussi une vraie sincérité.
Il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de soucis. Ça se... et ils ont vécu quand même... une expérience formidable.
Vous qui êtes spécialiste des séries, et ce sera ma dernière question, est-ce qu'il y a des séries héritières de Friends? Est-ce qu'on a réussi à faire un Friends depuis
Il y a eu plein de sitcoms qui ont suivi Friends. D'abord, ça a été une période bénie pour les sitcoms. Et de nos jours, que ça soit Oh, I Met Your Mother, ou que ça soit plus récemment, ça s'est arrêté, The Big Bang Theory, on peut dire que quelque part, le style imposé par Friends, avec des dialogues percutants, rythmés, et avec des personnages jeunes, sans référent adulte, ça a perduré. Big Bang Theory, c'est tout à fait ça. Par contre, c'est vrai que le genre sitcom en tant que tel est un peu passé de mode. À l'époque de Friends aux États-Unis sur les chaînes américaines, il y avait quoi ? 30-35 sitcoms par semaine, dans tous les genres, dans tous les styles. Cette année, il y en a 10. Et il n'y en a que 3 nouvelles. Et les plateformes font moins de sitcoms. Et en plus, ça dure moins longtemps. Les séries sur les plateformes comme Netflix ou comme Amazon Prime durent 1-2 saisons. Alors elles sont hyper prestigieuses, c'est à coût de 10 millions de dollars l'épisode, etc. Mais vous ne faites pas 10 ans et 225 épisodes, quoi. Et vous n'avez pas de royalties.
Vous savez quoi ?
Ouais.
Je vais regarder. Et je vous dirai.
C'est gagné.
Bon, je vais regarder et je vous dirai. Je vous remercie beaucoup, Alain Carazé. Vous avez mis une heure et vous m'avez convaincu.
Je vous tiendrai. À coup de dollars, mais presque.
Ah oui, c'est ça. Merci beaucoup.
C'était un
plaisir.
En tout
cas, d'avoir accepté mon invitation. Prenez soin de vous. Merci à vous.